Radio Vatican, Français Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à l'écoute des Radios Vatican. L'essentiel des activités du pape au courant de la semaine et les nouvelles de la famille des dieux qui est en République démocratique du Congo et au Burkina Faso constitueront le point saillant de l'actualité de l'Église de cette nouvelle édition de notre programme. Pour ce qui est de l'actualité sociopolitique africaine, nous vous rendrons compte une fois de plus de l'évolution du dossier coronavirus sur les continents. Bienvenue encore une fois toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, Français-Afrique, Camille Moukosso.
Commençons l'actualité de l'Église par la semaine du pape, Jean-Paul Tamba.
Le pape a reçu samedi tour à tour en audience le cardinal Marc Ouellé, préfet de la Congrégation pour les évêques, le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, monsieur Aloysius John, secrétaire général de Caritas Internationalis, avec monseigneur Pierre Ntakobanjira Chibambo, assistant ecclésiastique, monseigneur Giacomo Morandi, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Bien auparavant, dans la matinée samedi, le pape avait présidé la célébration eucharistique en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, une messe qui, depuis quelques semaines, est diffusée en direct pour faire participer tous les fidèles en ce temps de la pandémie du Covid-19. François a demandé à Dieu de donner à chacun une conscience juste afin d'accomplir le bien et jamais le mal en ce temps difficile. Dans son homélie, commentant l'évangile de Jean qui raconte la décision du Sanhédrin de tuer Jésus après la résurrection de Lazare, le Saint-Père a fait remarquer que c'était une décision qui arrive au terme d'un processus graduel. C'est le chemin de la tentation qui commence par peu de choses et se transforme ensuite en péché qui se justifie par lui-même. La tentation croît lentement, contamine les autres et se justifie, changeant le cœur. Derrière cette tentation, a-t-il dit, il y a la ruse du diable qui veut détruire Jésus. Le pape a ainsi prié afin que l'Esprit Saint nous éclaire et a conclu la célébration avec un temps d'adoration et une bénédiction eucharistique en invitant à la communion spirituelle. À l'occasion de la Semaine Sainte qui s'ouvrira le dimanche 5 avril avec les rameaux, le pape a envoyé vendredi aux fidèles du monde entier un message vidéo en ce temps des difficultés et des souffrances. Il y exprime notamment sa proximité et son affection à tous en incitant les fidèles à utiliser au mieux ce temps avec générosité. Même si nous sommes isolés, a soutenu François, la pensée et l'esprit peuvent aller loin avec la créativité et l'amour. Célébrons la Semaine Sainte d'une manière vraiment inhabituelle qui manifeste et résume le message de l'Évangile, celui de l'amour sans limite des dieux, a-t-il poursuivi avant d'ajouter qu'alors et dans le silence de nos villes, l'Évangile de Pâques résonnera. Cette foi de Pâques nourrit notre espérance, voulant la partager avec tous. C'est l'espoir, a encore affirmé le pape, d'un temps meilleur dans lequel nous pouvons être meilleurs, enfin libérés du mal de cette pandémie. C'est un espoir et l'espoir ne déçoit pas, ce n'est pas une illusion, c'est un espoir. François, dans ce message, a également parlé aux familles, pensant à la vivacité des enfants et des jeunes, aux familles éprouvées par le coronavirus ou qui ont vécu un deuil. Il pense aux personnes seules et surtout aux personnes âgées, aux malades. Dans la vidéo de l'intention de prière du pape pour le mois d'avril rendue publique jeudi, le Saint-Père attire l'attention sur les addictions qui touchent la société actuelle et demande que l'on prie pour que les personnes soient bien aidées, accompagnées et libérées des souffrances que ces addictions entraînent. Lors de l'audience générale retransmise en direct mercredi depuis la bibliothèque du Palais apostolique, le pape était longuement revenu sur la sixième béatitude, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. À de nombreuses reprises, avait-il déclaré, les Écritures manifestent la soif d'une relation personnelle, authentique et intime avec Dieu. Pour parvenir à cette contemplation, il est nécessaire d'entrer en soi-même et de laisser la place à Dieu, lui qui est plus intime à nous que nous-mêmes, avait encore soutenu le Saint-Père en citant Saint Augustin. Pour voir Dieu, point nos besoins de changer de lunettes ou de point d'observation. En réalité, le pas décisif est accompli lorsque l'on se rend compte que notre pire ennemi se trouve au-dedans de nous, caché dans nos cœurs. Et le combat le plus noble consiste à le libérer de ces trahisons intérieures qui engendrent le péché.
Les évêques du Burkina Faso ont publié pour la troisième fois une note pour inviter tous les fidèles à l'observance scrupuleuse de toutes les directives édictées en vue de mettre fin à la pandémie du Covid-19. Les précisions dans ces comptes rendus de notre correspondant local.
Eu égard à la persistance du fléau du Covid-19 et à la multiplication des foyers d'infection de ce virus, les évêques du Burkina ont sorti pour la troisième fois une note pour demander aux fils et filles de l'Église Famille de Dieu qui est au Burkina Faso de persévérer dans l'observance scrupuleuse de toutes les directives qu'ils ont édictées les 12 et 18 mars dernier, ainsi que de celles émanant des autorités civiles compétentes jusqu'à nouvel ordre. Cette note du 2 avril 2020 précise que le Triduum Pascal sera célébré dans tous les diocèses du Burkina Faso dans le respect des consignes données par les autorités étatiques et par les évêques eux-mêmes. Pour la conduite des célébrations, la note souligne ceci. Nous observerons les indications de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Étant donné le couvre-feu en vigueur sur l'ensemble du pays, la note donne libre cours à chaque évêque de préciser les heures de célébration dans son diocèse. Les évêques du Burkina ont conclu leur écrit par des encouragements au gouvernement et au personnel soignant dans leurs actions en vue de protéger les populations de la contamination du Covid-19 et pour soigner les malades. À ces derniers, ils expriment leur proximité dans la prière. Enfin, ils invitent les fils et filles de l'Église Famille de Dieu qui est au Burkina Faso à intensifier la prière. Bien que ne participant pas physiquement aux célébrations, exhortent les évêques, priez, faites prier et demandez des messes afin que Dieu notre Père, par la passion, mort, résurrection de Jésus-Christ, délivre toute l'humanité de ce fléau et de tout mal. Paul Da Ouagadougou pour Radio Vatican.
Même son des cloches du côté de la République démocratique du Congo, où l'évêque de Bassankoussou, Mgr Joseph Mokobe, a appelé les fidèles au respect de tous les dispositifs donnés, aussi bien par l'État que par l'Église en ces temps du coronavirus. Reportage.
L'évêque de Bassankoussou, dans la province de l'Équateur, Mgr Joseph Mokobe, appelle les fidèles au respect strict de toutes les dispositions données aussi bien par l'État que par l'Église en ces temps du coronavirus. L'appel de Mgr Joseph Mokobe est le contenu d'un message pastoral en langue lingala qui peut se traduire en français « Luttons ensemble pour barrer la route au coronavirus », appel pressant à l'Église Famille de Dieu à Bassankoussou et aux hommes de bonne volonté. Mgr Mokobe communique au peuple de Dieu les explications des scientifiques et les consignes de l'Organisation mondiale de la santé sur le coronavirus, puis les décisions prises par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour lutter et se protéger contre le coronavirus, enfin les dispositions du pape François et celles de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en y ajoutant des directives spécifiques du diocèse de Bassankoussou. La lettre pastorale contenant toutes ces dispositions, l'évêque de Bassankoussou l'a présentée lors de la réunion du Conseil épiscopal élargi tenue du 28 mars au 2 avril à Bassankoussou. Le thème spécifique de la rencontre a été l'évaluation du programme de la relance de la pastorale d'ensemble basée sur l'option prioritaire de la lutte contre la pauvreté et contre la violence. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'actualité sociopolitique africaine est dominée une fois de plus par les dossiers coronavirus. Le principal institut de cancérologie en Égypte a indiqué samedi avoir détecté au moins 15 cas du nouveau coronavirus parmi son personnel médical, faisant craindre que le patient fragilisé puisse être à leur tour contaminé. Une parole rare et d'or pour les uns, un silence irréprochable voire dangereux pour les autres, Au Cameroun, où le coronavirus progresse très vite, le président Paul Biya ne s'est toujours pas exprimé à la télévision un mois après l'annonce d'un premier cas. Avec 509 personnes infectées selon les autorités et 8 morts, le Cameroun est samedi le deuxième pays le plus touché d'Afrique subsaharienne derrière l'Afrique du Sud. Au moins un cas confirmé de nouveau coronavirus a été enregistré à Beni dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires. Par ailleurs, la République démocratique du Congo est prête à accueillir les essais d'un futur vaccin contre le Covid-19, a déclaré vendredi le responsable congolais de la lutte contre la pandémie, le professeur Jean-Jacques Muyembe, citant un exemple, le vaccin utilisé à titre expérimental face à l'actuelle épidémie d'Ebola. Le vaccin sera produit soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous, a déclaré le professeur Muyembe, dont le propos ont suscité des très vives réactions chez plusieurs Congolais refusant d'être des cobayes. La pandémie du nouveau coronavirus renforce la nécessité d'un plan Marshall pour l'Afrique, estime le président du Niger, Mohamedou Issoufou, dans une interview diffusée vendredi sur la chaîne France 24. Le nombre de cas d'infection au nouveau coronavirus est passé à plus de 1500 et la pandémie a fait 7 morts en Afrique du Sud, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Nzweli Minze, en précisant que ces chiffres étaient inférieurs à la réalité à cause des limites du dépistage. Avec plus de 1500 cas, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché par le virus sur le continent africain. Le ministre de l'Intérieur tunisien a fait circuler depuis quelques jours dans les rues de Tunis un robot policier construit localement qui appelle la population à respecter les confinements imposés depuis le 22 mars dernier afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. La star ivoirienne du football, Didier Drogba, a réagi sur les réseaux sociaux à une séquence de la chaîne française LCI dans laquelle un chercheur et un médecin français évoquent des tests médicaux contre le coronavirus en Afrique. « Il est inconcevable que nous continuions à accepter ceci. L'Afrique n'est pas un laboratoire », affirme l'international ivoirien sur sa page Facebook et Twitter, avec une photo de deux protagonistes. Et à propos de cette situation, l'ONG SOS Racisme s'indignant a indiqué que les Africains n'étaient pas des cobayes, dénonçant l'endroit des corps noirs, un mépris et la comparaison avec les sida et les prostituées. Libreville, la capitale gabonaise, sera en quarantaine dans les prochains jours pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le président Ali Bongo Ondimba. Le Gabon a interdit par ailleurs la vente et la consommation des pangolins et des chauves-souris, deux espèces soupçonnées d'avoir participé à la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le ministre gabonais des Eaux et des Forêts.
Radio Vatican, France-Afrique, Camille Moukoso.
Direction République centrafricaine, le parti de l'ancien président François Bozizé, les KNK, a accusé vendredi le gouvernement de vouloir décapiter son organisation par l'arrestation programmée de ses dirigeants, dont M. Bozizé, ce que demande le ministre de la Justice. La Cour constitutionnelle de Guinée a entériné vendredi la très large victoire du oui lors du référendum du 22 mars sur une nouvelle constitution, boycottée par l'opposition, renvoyant toutefois légèrement à la baisse l'ampleur du raz-de-marée annoncé la semaine dernière par la commission électorale. Le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, se porte bien plus d'une semaine après son enlèvement, a assuré sa formation politique, alors que des discrètes négociations se poursuivent avec ses ravisseurs qui ont libéré dans la nuit de jeudi à vendredi 5 de ses compagnons. 4 militaires nigériens et 63 terroristes ont été tués jeudi dans les combats entre l'armée et les hommes lourdement armés dans la région des Tillaberi, proche du Mali, a indiqué vendredi soir un communiqué du gouvernement. Le père jésuite Antoine Kéruel nous introduit à la méditation avec les lectures du dimanche des Rameaux.
Aujourd'hui, Jésus entre à Jérusalem, monté sur une ânesse qu'accompagne son petit, et la foule l'acclame. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Aujourd'hui, nous entrons dans la semaine sainte en écoutant l'évangile de la Passion selon saint Matthieu. À la fin de ce récit, le centurion qui se trouve au pied de la croix avec d'autres gardes s'exclame « Vraiment, celui-ci était le fils de Dieu ». La liturgie de cette semaine sainte invite à regarder Jésus
qui, à travers sa passion et sa résurrection, nous arrache à la mort pour nous faire entrer dans la vie en Dieu. Cependant, vivre la Semaine Sainte n'est pas chose facile. Les journées qui nous attendent appellent à une conversion. La grandeur de Dieu se manifeste dans la vulnérabilité du crucifié qui donne sa vie pour nous. Il nous serait plus confortable d'accueillir un sauveur qui anéantirait ses ennemis par une victoire éclatante, au cours de laquelle ses adversaires seraient humiliés une fois pour toutes. Or, loin de vaincre ses ennemis en utilisant les armes du monde, Jésus nous conduit à la vie en mourant de façon infamante sur une croix, puis en disparaissant aux yeux de ses disciples alors que son tombeau redemeure vide. La passion brouille toutes nos images, bouleverse tous nos désirs de gloire à la manière du monde, dissout nos rêves de triomphe étincelant. Oui, Jésus est roi, mais sa royauté passe par le don total de lui-même et le service. Jésus lave le pied de ses disciples, y compris ceux de Judas Iscariote, et il ne se dérobe pas à son arrestation, à son procès et à sa condamnation. Jésus vit ses derniers jours comme l'ultime occasion d'enseigner à ses disciples la voie de la compassion qui conduit à une vie nouvelle. Nous en sommes perturbés car il ne nous est pas spontané d'entrer dans une telle manière de faire. La Semaine Sainte nous appelle à nous convertir à l'humilité de Dieu. La Passion nous fait aussi comprendre que celui que nous avons célébré à Noël, l'Emmanuel, Dieu avec nous, est vraiment avec nous dans toutes nos épreuves. La vulnérabilité de Dieu, qui, en Jésus, se manifeste lors de la Passion, nous fait pressentir que Dieu ne s'absente pas au temps de nos épreuves, mais accepte de partager notre condition humaine jusqu'à l'extrême pointe de nos souffrances. Alors que nous risquons d'être anéantis par la maladie d'un proche, par la disparition d'une personne chère, par la pandémie qui menace des populations entières, par les violences qui accablent tant de pays, n'oublions pas que Dieu est présent dans notre monde. Il en vient à perdre souffle en se révélant comme celui qui, en Jésus crucifié, vit la compassion jusqu'au bout. Si nous acceptons d'approfondir tout au long de notre existence cette découverte, alors le découragement, le désespoir et le cynisme n'auront plus prise sur nous, et nous pourrons faire nôtres les paroles du centurion qui, devant le crucifié, s'exclame « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Nous avons probablement tous en mémoire des exemples de personnes qui, artisans de paix et serviteurs de la vie, ont été ou sont aujourd'hui des témoins de lumière dans des temps d'épreuves collectives. De manière silencieuse, ces personnes ont parcouru ou parcourent le chemin du don, de l'amour et de la compassion, et leur itinéraire nous montre la route à suivre. Ces témoins nous aident à accueillir le chemin de Pâques où passion et résurrection font entrer dans une vie nouvelle. Demandons au Seigneur Jésus qu'il nous aide à rester avec lui dans cette Semaine Sainte, qu'il nous aide à accepter en profondeur ce qu'il va vivre pour nous, que nos exclamations d'aujourd'hui nous conduisent à un plus vif désir d'emprunter le chemin de vie sur lequel il nous guide.
Place à la présentation de l'exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia du pape François avec le père jésuite Rigobert Kyungu.
Nous continuons avec la lecture du deuxième chapitre de l'exhortation apostolique post-synodale du pape François Querida Amazonia. Ce chapitre est intitulé « Un rêve culturel ». Nous en lirons aujourd'hui le deuxième point qui a pour titre « Prendre soin des racines ». D'entrée de jeu, le pape dit « Je désire maintenant rappeler que la vision consumériste de l'être humain, encouragée par les engrenages de l'économie globalisée actuelle, tend à homogénéiser les cultures et à affaiblir l'immense variété culturelle qui est un trésor de l'humanité. » Ceci touche de très près les jeunes quand on tend à dissoudre les différences propres à leur lieu d'origine, à les transformer en êtres manipulables, fabriqués en série. Pour éviter cette dynamique d'appauvrissement humain, dit le pape, il faut aimer les racines et en prendre soin, car elles sont un point d'ancrage qui nous permet de nous développer et de répondre à de nouveaux défis. Et s'adressant particulièrement à la jeunesse, le pape dit « J'invite les jeunes de l'Amazonie, surtout les autochtones, à prendre en charge les racines, parce que des racines provient la force qui les fait croître, fleurir, fructifier. Pour les baptisés, l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église jusqu'à aujourd'hui font partie de ses racines. Les connaître est une source de joie et surtout d'espérance qui inspire des actions braves et courageuses. Puis, poursuivant la réflexion, le pape rappelle que des siècles durant, les peuples amazoniens ont transmis leur sagesse culturelle oralement, par des mythes, des légendes, des narrations, comme c'était le cas avec ces conteurs anciens qui parcouraient la forêt racontant des fables de village en village. Maintenant vivante, une communauté qui, sans le cordon ombilical de ces histoires, aurait été fragmentée et dissoute par la distance et l'isolement. C'est pourquoi, dit encore le pape, il est important que les personnes âgées racontent de longues histoires et que les jeunes s'arrêtent pour boire à cette source.
Invité du jour.
Notre invité du jour est le professeur Ebalaka Ikwangala, immunologue et virologue de formation. Il est enseignant à l'université de Lubumbashi en République démocratique du Congo, étant en même temps responsable de tous les laboratoires de cette institution. Dans l'entretien qu'il a accordé récemment, le professeur Ekwalanga commence par expliquer ce qu'est le nouveau coronavirus ou le COVID-19. On l'écoute.
Nous avons eu entre 2002-2003 une épidémie qu'on appelait syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS. Ensuite, en 2009-2012, nous avons eu le MERS. Tout ça, c'est les maladies qui sont dues à un agent causal qu'on appelle de la famille des coronavirus. Cette fois-ci, le COVID qu'on appelle le SRAS-CoV-2, c'est un cousin, si vous voulez, de l'ancien coronavirus qui a fait le SRAS en 2002-2003. Donc, c'est une mutation. Voilà, donc c'est une maladie pulmonaire qui est assez grave. Le problème est que cette souche provoque beaucoup de mortalité et en plus elle est très contagieuse.
Parti de la Chine en Asie, en passant par l'Europe et l'Amérique, le coronavirus est actuellement en Afrique et au Congo, Kinshasa. Étiez-vous préparé à affronter ce fléau?
Personne n'a été préparé à ça. C'est pour cela que nous sommes partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, tout ça partout. Nous sommes débordés. La seule différence qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe, qui sont des pays développés avec une structure de santé efficace. Nous, ici, on a une structure de santé défaillante. Et nous avons peur que demain, vu les circonstances, que ces structures soient saturées. Ça sera catastrophique. C'est pour ça que par tous les moyens, on empêche par le confinement et tout ça, que les gens tombent malades en même temps, qu'il n'y ait pas plus de gens malades en même temps. Le problème du Congo, justement, ce qui nous inquiète, c'est que il y a une équipe de riposte. Nous, à Lubumbashi, nous avons notre approche qui est différente de l'approche qui est utilisée à Kinshasa. Aujourd'hui, sur 82 contaminés, il y a quand même 8 morts, donc ça fait 10%, ça fait beaucoup tout de même. Et ce n'est qu'un début, donc il faudra vraiment qu'on se réveille, qu'on se batte, et comme dit Macron, c'est une guerre qu'il faut à tout prix gagner, parce que sinon ça sera l'hécatombe. Ce n'est pas pour paniquer les gens, dommage, parce que beaucoup d'Africains, que ce soit au Congo ou ailleurs, n'ont pas la bonne perception de la maladie. Beaucoup croient que c'est une blague, beaucoup croient qu'on en meurt ailleurs, on ne va pas en mourir chez nous, beaucoup mélangent la sorcellerie, la religion là-dedans. Les gens n'ont pas encore perçu la vraie réalité de cette COVID-19.
Vous avez dit qu'à Lubumbashi, vous avez une approche différente par rapport à celle de Kinshasa. En quoi consiste l'approche de Lubumbashi?
En fait, l'approche de Lubumbashi qui est maintenant intégrée, le président de la République a autorisé que cette approche soit acceptée dans le cohorte de la riposte. Nous, notre approche, c'est une approche qui est en même temps pré-expositionnelle. Ça signifie qu'on peut donner aux gens qui ne sont pas malades, ceux qui s'occupent des malades. Et notre approche est aussi en traitement. Nous utilisons les interférons du type 1, la chloroquine et les antioxydants pour l'approche pré-expositionnelle. Nous changeons les interférons. Nous utilisons l'interféron gamma, la chloroquine et les antioxydants pour un traitement. Dans les cas de complications, nous couplons l'interféron alpha, gamma, chloroquine et antioxydants. Différemment des autres qui utilisent, parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a ceux qui utilisent les antirétroviraux qui étaient censés être contre le VIH. D'autres utilisent les antirétroviraux qui étaient contre Ebola. Mais ce sont quand même des antirétroviraux. Il y a des possibilités de mutations. Donc nous ne cherchons pas à attaquer les virus. Notre approche, c'est une approche immunologique. Ça signifie booster le système immunitaire pour que le système immunitaire soit capable de pouvoir combattre les virus. Regardez par exemple en Chine. En Chine, sur des milliards d'êtres humains, aujourd'hui tout le monde conteste qu'il n'y a pas eu si peu de morts, même s'il y a eu beaucoup plus de morts qu'ils le disent. N'empêche qu'il y a certaines personnes ont échappé à cette pandémie sans être traitées, grâce à leur système immunitaire. Donc on ne peut pas nier la place du système immunitaire, l'originalité de notre approche, qui est sincèrement l'unique presque au monde. Nous avons utilisé les interférons que les Cubains ont vendus aux Chinois, ça marche. La chloroquine, Raoul et beaucoup de gens l'utilisent, ça marche. Nous, nous avons associé trois molécules qui marchent en même temps. C'est une trithérapie. On n'aille pas nous dire, vous avez essayé ça où? Nous sommes dans l'approche compassionnelle. Ça signifie que un médecin qui pense qu'une molécule non toxique peut ajouter quelque chose de plus contre une maladie a le droit de l'utiliser. Il prend la responsabilité, il peut l'utiliser. Donc nous, nous n'avons pas de molécules toxiques. Donc qu'on nous demande pas, vous avez testé ça où? Nous avons simplement détourné certaines molécules. Nous avons mélangé ces molécules contre le coronavirus.
Professeur Ebalaka Ekwalanga, immunologue et virologue de formation, enseignant à l'Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo, propos recueillis par Jean-Paul Kamba.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Camille Moukoso vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.